disparition du soldat franco-israélien Gilad Shalit. C'est ce que pense Nicolas Sarkozy, qui a reçu à l'Élysée les parents du jeune homme détenu depuis 5 ans à Gaza. Malgré la répression, les Syriens défilent aujourd'hui dans plusieurs villes, notamment dans le nord du pays et à Deraa dans le sud, où les forces de l'ordre ont ouvert le feu. Au moins 2 manifestants ont été tués. Au Yémen, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de la capitale Sanaa. Ils réclament toujours le départ du président Ali Abdallah Saleh.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Stéphanie Duncan.
Parti en avant !
Ce soir, à l'abordage, nous embarquerons avec Louis Garneret qui, pendant la Révolution française et l'Empire, a sillonné l'océan Indien comme corsaire, négrier et peintre de marine. À ce soir, 21h. France Inter.
La différence.
15h et presque 4 minutes sur France Inter. Je vous laisse avec Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Salut Daniel, c'est les indignés de Quimper, là, sur la place Saint-Corentin. Il est 21h. Ça fait 9 jours qu'on tient la place. Bon, voulez vous passer un petit message?
On la tient, notre démocratie participative. 589 villes font la même chose que nous dans le monde. Dans les assemblées générales, on crée cette démocratie directe.
Alors rendez-vous demain, vendredi 10, à 18h, place Saint-Corentin à Quimper, pour une bonne soirée.
À notre démocratie!
Et on lâchera rien!
J'appelais juste pour dire merci, vraiment un grand merci pour cette émission-là sur André Gorz. C'était super, quoi. Ça fait un bien fou d'entendre des choses comme ça. Toute la réflexion sur du travail, sur le fait qu'on est complètement dépris de notre capacité à investir nos boulots comme on souhaite, tout ce qui est de l'ordre de la mise en procédure, la standardisation. Enfin, c'est des choses qui font écho très fort chez moi. Moi, j'ai 32 ans, pas d'identité sociale liée au travail, puisque j'ai pas de travail. J'en avais un qui me plaisait beaucoup, qui était l'accompagnement scolaire d'enfants handicapés. Mais c'est pas reconnu comme un travail à part entière. Le choix des classes dirigeantes, ça a été plutôt d'en faire un job dans lequel on n'a pas le droit de s'inscrire ni de rester. Et puis, enfin voilà. D'entendre André Gorz, ça m'a fait un bien fou. C'est ce que je voulais dire, quoi. Bonne journée à tout le monde.
Bonjour Daniel. Alors c'est pour te remercier pour l'émission d'André Gorz. Bon, en fait, il a le même état d'esprit que moi en rapport au travail, où la question qu'on doit se poser, c'est de est-ce qu'on doit faire ce qu'on fait. Ben, dans le travail, non, faut arrêter là de travailler dans de la façon qu'on travaille. C'est immonde, c'est inadmissible, c'est indigne de nous. C'est pas ça le travail, faut arrêter. Surtout qu'aujourd'hui, on fait du travail pour rien, c'est-à-dire qu'on fait... Il n'y a pas du travail pour tout le monde, mais pour ceux qui travaillent, on travaille trop. Et c'est aliénant, on va devenir fou, là. C'est suicidaire, je pense aux travailleurs de France Télécom, où on travaille comme n'importe comment, on fait n'importe quoi, on nous sous-estime, on nous dévalue. Il faut arrêter de travailler dans ces conditions-là et faire ce qu'il faut. Et André Gorz, je suis vraiment content d'avoir entendu ce personnage qui pense, ou je pense comme lui, hein, avec toutes ces questions qu'on se pose et puis qui sont pas faciles à résoudre. Ben, merci encore, hein, c'est Anthony de Dijon. Salut.
Delphine de Paris, voilà, ça fait longtemps que je voulais un petit peu laisser un message pour parler de mon annihilation générale, de ce qui se passe en ce moment. Et en fait, ce matin, à 9h-6, quelqu'un l'a dit parfaitement sur votre antenne et je voudrais lui dire merci. Donc voilà, je dis merci à François Morel pour son Tegel Luc Ferry. Voilà, c'était splendide, génial, j'en ai applaudi dans ma salle de bain. Merci encore François Morel pour ce Tegel Luc Ferry. Et moi aussi, je dis Tegel Luc Ferry. Au revoir.
Bonjour Daniel, c'est Yuki. Demain, le 11 juin, 3 mois se seront écoulés depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima. Ces derniers jours, la compagnie TEPCO et le gouvernement japonais ont enfin admis qu'il y a eu fusion du cœur pour 3 réacteurs et que la cuve a été percée. Tous les jours, on a des nouvelles de la contamination radioactive qui se répand. Maintenant, même à Tokyo, il y a des endroits où on a trouvé le taux radioactif élevé à proximité de la station d'épuration des boues, par exemple. De plus en plus de Japonais ont eu vraiment marre. Des jeunes, des maires au foyer, des agriculteurs protestent. Des initiatives se multiplient. Et ils ont décidé d'organiser une journée de grande action pour sortir du nucléaire le 11 juin dans tout le Japon. Alors, avec notre amie Colline et d'autres japonais de l'association Éco-Échange, avec Sortie du nucléaire Paris et Attaque, nous avons décidé d'organiser une manifestation et un rassemblement avec des concerts à Paris aussi. Près de 30 d'associations, syndicats et partis politiques ont répondu à notre appel. Donc, demain à 14h30, départ de la place de la République jusqu'à l'hôtel de ville. Il y aura des japonais en tête de cortège avec des banderoles et slogans en japonais aussi. J'espère qu'il y aura beaucoup de français. De 16h à 20h, sur le parvis de l'hôtel de ville, il y aura des prises de parole et des concerts gratuits. Ce sera instructif, joyeux et solidaire. Venez nombreux.
Voilà, instructif, joyeux et solitaire. Solidaire. Vous avez reconnu la voix de notre ami Yuki, que vous avez entendu dans nos reportages sur Fukushima et Hiroshima. Je répète donc demain, manif au Japon, un peu partout en France, et aussi donc à Paris, 14h30, place de la République, jusqu'à l'hôtel de ville pour le troisième mois de la catastrophe de Fukushima, pendant que les médias nous font suivre chaque geste de DSK, nous faisant découvrir qu'il a une cravate, que son épouse est là, etc. Eh bien, nos amis japonais ont de quoi se poser des questions suite à la catastrophe de Fukushima, et bien sûr que ça ne peut pas se limiter à nos amis japonais. Au passage, il faut remercier les flics de Toulouse pour avoir donné, redonné du sens et de la vigueur aux chansons de Georges Brassens. Le pauvre vieux Georges est un peu embaumé, momifié, on dit bon, voilà. Et voilà que ces flics ont arrêté des jeunes gens qui chantaient « Hécatombe ». Merci à ces flics qui font vraiment leur boulot de flic, bien con, bien flic, et puis qui redonnent du sens à tout ça. On était un peu troublés, à la base j'y suis, parce que récemment on s'est fait un ami qui est un gendarme anarchiste. Alors ça fait quand même, c'est le monde à l'envers. Là c'est le monde qui revient à l'endroit. Merci aussi pour, vous avez été nombreux à laisser des messages sur l'intervention de François Morel ce matin avec son ta gueule Ferry, c'est très bon. Aujourd'hui, on continue avec André Gors, deuxième partie, avec Christophe Fourel, qui a dirigé un livre sur André Gors aux éditions de La Découverte, à partir d'entretiens d'André Gors avec nos confrères de France Culture, qui datent de 1991, il y a 20 ans donc. André Gors, c'est le penseur de l'écologie politique. Hier, on a évoqué son parcours. Gors est mort, vous le savez peut-être, en 2007. On a évoqué sa rencontre avec Jean-Paul Sartre, son interprétation du marxisme, ses réflexions sur la place du travail et de l'individu, etc., et ses idées sur l'écologie politique. Et cette écologie politique dont beaucoup se réclament, beaucoup d'écolos se réclament, en se réclamant d'André Gors, il nous a semblé qu'il était utile d'écouter Gors lui-même en parler. Il va en parler, mais pas seulement d'écologie politique. En vérité, Gors n'a pas inventé l'écologie. Il se situait dans le sillage d'Ivan Illich, il l'a évoqué hier, mais il a ajouté à l'écologie cette dimension politique qu'il a pleinement assumée. Et dans un recueil d'articles paru en 1975, il avait donné à ce recueil le titre « D'écologie et politique ». C'est un ouvrage qui commençait de façon significative par un texte de rupture, je cite « Leur écologie est la nôtre », et qui était un texte décisif dans lequel « Contre l'écologie de marché et l'expectocratie verte », la classe supérieure des experts, disons l'expertocratie, il prenait ouvertement le parti d'une écologie émancipatrice et clairement anticapitaliste. Voilà pourquoi nous sommes avec André Gors, sa voix en tout cas, et des commentaires de Christophe Fourel jusqu'à 16h ensemble dans la basse, si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, voici des nouvelles du repère des habits de la Bastille lyonnais. On a rendez-vous demain, vendredi 10 juin, à 20h30 au Cotopo, Lyon 1er arrondissement, pour discuter des différences hommes-femmes. Plus de renseignements sur www.cotopo.net.
Bonjour à tous, c'est Romain du repère de Beauvais-sur-Tescou. Les repères à Tarnay et celui de Montauban tiendront un stand de présentation et de promotion sur la foire Biocibel de Gaillac dans le temps. Ceci le dimanche 12 et lundi 13 juillet. En 2010, ce stand a encouragé le démarrage du repère de Montauban et il a permis aux auditeurs de la région d'Albi et Gaillac de proposer un repère à Marsac. Votre visite pour un stand de partage et de présence sur le stand nous fera le plus grand plaisir. Surtout si cela permet à des AMG de prendre contact pour d'autres créations de Café Repère. À bientôt.
L'appétit pour l'argent est inversement proportionnel à l'empathie pour les gens. C'était Pierre de Saint-Maur, bise à toute l'équipe.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base et j'y suis avec Christophe Fourel, André Gors, un penseur pour le 21e siècle.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors Christophe Fourel, on se retrouve aujourd'hui avec vous et André Gors, et autour d'un entretien qu'il a donné en 1991 à France Culture, à notre consoeur Marie-France Hazard, sur France Culture, et là on va aborder la suite de son parcours et la suite de son œuvre et la suite de sa pensée. Inutile de dire que en l'espace d'une heure, même une heure de là-bas si j'y suis, on n'arrivera pas à épuiser son travail, mais on espère évidemment donner aux AMG et aux auditeurs en général l'envie de le découvrir ou de le redécouvrir. Alors son œuvre, elle est quand même assez compliquée parce que il est synonyme de l'écologie politique, mais il a un parcours quand même assez riche qui commence avec l'existentialisme, il devient un ami de Jean-Paul Sartre, il travaille longtemps à la revue Les Temps Modernes, après il va rompre avec Sartre, j'y vais à grands pas là, il va rompre ou du moins se séparer un peu de Sartre, et puis au début des années 70, il va donc être un des cofondateurs ou un des grands penseurs, architectes, comme on voudra, vous allez me dire ce que vous en pensez, de l'écologie politique. Comment vous le présenteriez, comment vous avez l'habitude de le présenter, parce que vous avez travaillé beaucoup avec Gors, vous l'avez bien connu, vous travaillez sur lui, comment vous avez l'habitude de le présenter en quelques mots?
Alors, je crois que les adjectifs que vous avez utilisés sont assez justes. Je crois d'abord que c'est un philosophe autodidacte et qui, effectivement, est un philosophe du sens à notre existence, du sens de notre société, dans la façon dont elle se construit. Et c'est effectivement quelqu'un qui est un des pères spirituels, pourrait-on dire, de l'écologie politique. Même si, comme on a pu le dire déjà dans la séance précédente, il n'a pas traité directement des problèmes écologiques comme l'effet de serre ou les problèmes de la biodiversité dans son œuvre, il n'empêche qu'il a beaucoup inspiré les écologistes dans les années 70. Il est venu, il le disait lui-même comme ceci, il est venu à l'écologie politique par la critique de la société de consommation auquel il s'était attaqué, si vous le voulez bien, dès le début des années 60. Et c'est vrai, vous avez raison, André Gors est un auteur qui fait référence, qui est subversif, puisque André Gors, sous son autre pseudonyme, on y reviendra certainement, Michel Bosquet, quand il était journaliste.
Même en 70, c'était les masses populaires, même les masses médias, on dit les médias maintenant, on a enlevé masse. Et c'est un mot qu'on trouvait facilement dans les discours révolutionnaires chez les progressistes, et ça voulait dire un mot qui s'opposait à l'idée d'individu. L'individu, c'est pas bien, les masses, c'est bien. Et individu, ça fait égoïsme, ça fait chacun pour soi. Or, Gors rejetait cette opposition-là. Pour lui, l'émancipation collective était liée à l'épanouissement individuel. Il tenait beaucoup à cette idée-là de l'épanouissement individuel. Il a beaucoup travaillé sur la personne, sur sa propre identité. en même temps, évidemment, qu'il aspirait, comme nous tous, à l'émancipation collective. Voilà comment il expliquait son nom, comment il expliquait finalement pourquoi il s'appelait André Gorce.
Quand j'étais à l'Express, j'avais élaboré une méthode d'autocompréhension et de remaniement de vous-même, qui, à partir d'un certain nombre de questions concernant votre situation de départ, les possibilités qu'elle impliquait, votre choix, ce que j'appelais le choix originel, etc., etc. Donc, en posant ces questions, je pensais que une personne pouvait se remanier et changer la façon dont elle était fabriquée, structurée, conditionnée au départ. Je me suis lancé dans l'application de la méthode à moi-même. Et c'était donc le traître, qui était, si vous voulez, mon auto-analyse, non pas une analyse freudienne, mais ce que Sartre avait appelé une analyse existentielle. Bien sûr que ça se terminait, et même que ça comportait tout au long des considérations assez subversives concernant la société, la bourgeoisie, l'oppression, l'exploitation, l'aliénation du monde, le fait que la plupart des gens vivent dans un monde qui n'est pas le leur, mais celui des autres, c'est-à-dire des dominants. Toutes ces choses, si je les publiais sous mon nom, empêchaient ma naturalisation que j'avais demandée, française. Ouais. Parce que le régime, à l'époque, était férocement, pas seulement anticommuniste, anti-gauche. C'est pas qu'il y avait des structures clandestines où on arrêtait tout ce qui fleurait vaguement, plus ou moins vaguement la gauche, pour les arrêter en une nuit, en cas de danger pour l'ordre établi. Alors c'était dans les années 50. J'ai choisi le nom de Gorz, qui a aussi des raisons historiques, parce que Gorz est une ville qui s'appelle Gorz en réalité, c'est-à-dire qu'avec un tréma sur le haut, un umlaut sur le haut, en Istrie, qui n'a jamais su à qui elle appartenait, de quelle était son identité. Elle s'appelle Gorizia pour les Italiens, Gorica pour les Slovènes, et Gorz pour les germanophones, c'est-à-dire les Autrichiens. Et je connaissais cette ville parce que mon père m'avait fait cadeau d'une paire de jumelles de l'armée austro-hongroise sur laquelle il y avait simplement écrit Gorz. Et cherchant un nom qui me pouvait me convenir et qui avait vaguement la même assonance que le mien d'origine, j'ai choisi le nom de cette paire de jumelles. Et je n'écris que sous le nom de Gorz.
Voilà, André Gorz. Pourquoi André Gorz s'appelait André Gorz? Alors, c'est un philosophe de l'écologie politique, c'était un journaliste, c'est un homme qui se présente avec un discours rationnel, et il nous fait partager les fruits de ses réflexions, de l'esprit, de la raison, etc. Mais enfin, tout l'aspect sensible, obscur, inconscient de sa personne, de son parcours et de ce qu'il dit de lui-même est à l'origine aussi de son œuvre et de son travail. Il dira, on l'entendra un peu plus loin dans un entretien de 2006, lors de la publication de cette fameuse lettre à D, la lettre qu'il adresse à sa femme un an avant leur suicide commun. Ils se suicideront ensemble, ils disparaîtront de cette façon. Il dira, en hommage à sa femme, elle m'a fait surmonter le refus d'exister. Donc dans cette histoire d'identité, il y a aussi une histoire d'existence qu'on retrouve chez Sartre dans l'existentialisme, etc., dans la nausée, qui est quand même qu'est-ce que je fais là, quoi ? Qu'est-ce que je fais là ? À quoi je sers ? Qu'est-ce qui me tient ? Qu'est-ce qui fait que je suis debout, etc. Il fera comme Sartre, il se consacrera à l'engagement politique, à la réflexion, à la philosophie. Il rejoindra les grands courants des pensées progressistes, disons, pour simplifier. Mais enfin, il y a quand même, au départ, et tout le long de sa vie, et jusqu'au terme de cette vie même, qui se finit, comme je viens de le dire, quelque chose de très intime et de très personnel qui apparaît dans cette considération sur l'enfance.
Toute personne a commencé par être un enfant. Toute personne a commencé par être un enfant, ce qui veut dire que les critères de jugement, la structuration de sa personne qui va la caractériser dans son âge adulte, elle lui a été imposée à une époque où il ne pouvait pas se défendre contre elle. Et qu'il a vécu sa socialisation comme on dit, son éducation, il l'a toujours vécu comme une violence et un arbitraire qui lui était imposé. Il y a toujours une réserve d'insoumission, de rébellion, de contestation dans toute personne. Personne ne peut s'identifier avec son être social, totalement. Et c'est cet écart entre le vécu personnel et l'image de soi-même que la culture, que la société vous oblige d'assumer, c'est cet écart qui fait la créativité artistique, culturelle, philosophique d'une personne. Si cet écart ne se donne pas, ou n'a pas la possibilité de se donner les moyens de son expression, c'est-à-dire d'une contestation qui est la liberté même de se remanier et de se redonner une existence que l'on ne tient que de soi-même, alors évidemment vous tombez dans le conformisme et l'utilitarisme le plus plat, et vous n'avez que des individus qui sont à peu près pareils les uns aux autres. Mais ce qui est l'idéal, en un sens l'idéal non dit, d'une société de consommation, c'est de produire des gens qui se reconnaissent dans l'image d'eux-mêmes qu'un produit est censé leur refléter, et qui s'en satisfont.
André Gorz, en 1991, sur France Culture, c'est quand même assez radical, ce qui est dit là.
Oui, c'est radical, et en même temps, je crois qu'on est au cœur de ce qui a été le matériau qui a permis l'élaboration de son œuvre. Cette idée de tenter de se remanier, c'est-à-dire qui a été effectivement tout l'effort qu'il a fait au travers le livre qui s'appelle Le Traître, cette idée que, en partant de l'histoire telle que elle nous a fabriquée, que ce soit l'enfance ou le lieu de sa naissance et du moment de l'histoire avec un grand H dans lequel effectivement on est venu au monde, de savoir s'il était possible de procéder à un remaniement complet. Dans Le Traître, il tente cet exercice-là. Puis, à la fin, il s'aperçoit que ce remaniement complet n'est finalement pas possible, mais en même temps, il pointe le fait que la prise de conscience de qui on est et la façon dont on peut en tirer parti, et dont chaque sujet, en faisant ses choix, peut en tirer parti, est une très bonne façon pour, comment dire, exprimer sa créativité, comme il le dit lui-même à l'instant, parce que justement, dans la créativité, c'est le moment où on est le plus soi-même. Et par là même, et la fin de l'extrait qu'on vient d'entendre est assez révélateur là-dessus, il commence à laisser entendre que notre société, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, réduit de plus en plus les hommes à des états de marchandises. Aujourd'hui, les hommes sont contraints de se vendre, finalement, pour survivre dans le cadre d'un contrat de travail dont on sait qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus précaires. Et donc, cette soumission à cette logique économique fait que les hommes sont un peu réduits à l'état de marchandises, et que quand on est réduit à l'état de marchandises, pour Gorz, on ne peut rêver qu'à des marchandises, et donc participer par là même à finalement la logique de la société de consommation.
Et les jeunes Espagnols de Madrid et les jeunes Catalans de Barcelone ont pour slogan actuellement « Nous ne sommes pas des marchandises entre les mains des banquiers ». C'est du Gorz.
D'une certaine manière, je suis d'accord, ça prolonge des réflexions de Gorz.
On continue avec André Gorz, sa voix, son œuvre, avec vous Christophe Fourel. On va voir comment il a été découvert relativement par le public français, c'est à la fin de sa vie, avec cette lettre à D, une sorte de testament amoureux, adressé à son épouse. Et tout d'un coup, cet homme évidemment de raison, de réflexion, de retenue, à la fin, adresse à son amie et femme et amour une lettre absolument magnifique qui va frapper les imaginations par l'émotion très profonde, ce qui va permettre d'ouvrir pour beaucoup l'accès à l'ensemble de son œuvre. C'est un texte court et absolument bouleversant, Lettre à D, histoire d'un amour. C'est une ode à son épouse, Dorine. Tu vas avoir 82 ans, tu as rapetissé de 6 cm, tu ne pèses que 45 kilos et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais.
C'est un livre par accident.
C'était une lettre, c'était un hommage que je voulais faire pour le 92e anniversaire de D. Et c'est devenu assez long. Et je dis, on va essayer de le publier. Elle a dit, tu ne me feras pas ça, ça m'embarrasserait beaucoup. Et je lui ai dit, mais ne t'en fais pas. Je veux que ce rôle déterminant que tu as joué dans tout ce que j'ai fait et vécu, qu'il en reste une trace. Parce qu'il, pour le moment, il n'en restait pas. Ce qu'il fallait, c'est la libération, non plus de l'esprit, mais de l'émotion. C'est qu'il fallait que je fasse sentir ce qu'elle avait été, ce qu'elle était pour moi. Ça, sinon, on peut pas écrire une lettre autrement. Et c'est ça qui fait qu'il émerge de temps en temps des morceaux qui sont émouvants.
Est-ce que vous avez appris quelque chose en l'écrivant ?
Si. J'ai appris à me laisser aller davantage. J'ai appris à dire des choses que j'avais jamais dites jusque-là. Mais oui, c'est ça de notre histoire. C'est-à-dire qu'elle m'a fait surmonter le refus d'exister. Donc, j'existais quand je lui écrivais ça. Et c'était un choix de montrer qu'elle m'avait fait exister et que j'existais pour elle. Mettons que c'est l'un des rares moments où je m'assume en tant qu'être sensible sujet. Je m'assume non pas dans philosophiquement, mais émotionnellement.
C'est un texte dont vous avez parlé à D quand vous l'avez commencé ?
Absolument pas. Non. Elle voyait que j'écrivais quelque chose, je lui disais que ça nous concernait tous les deux, mais je n'ai pas dit ce que c'était.
Donc vous saviez qu'il y avait ce texte qui était en train de s'écrire, sans savoir très bien ce que c'était ?
Mais comme elle est toujours en train d'écrire quelque chose, pour moi c'était dans la norme habituelle.
Mais vous n'en parlez pas, en général, de ce qu'il écrit, ensemble ?
Avant qu'il a bien avancé dans ses écrits, non.
Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez pensé en le lisant, si c'est une question à laquelle on peut répondre ?
C'est difficile de répondre. J'étais bien sûr très touchée.
Et vous avez été surprise ?
Oui.
Voilà, Dorine Gorce et André Gorce répondant à Béatrice Leca de France Culture en 2006, le 20 décembre 2006. Et quelques mois plus tard, le 24 septembre 2007, il se suicide à l'âge de 84 ans, André Gorce, en même temps que son épouse Dorine. Voilà, c'est leur geste final. On continue avec André Gorce, on revient en arrière, dans sa vie, dans sa pensée, dans ses considérations, avec vous, Christophe Fourel. Il était journaliste, il faut pas l'oublier, sous le nom de Michel Bosquet, et il a beaucoup écrit sur l'écologie dès début des années 70 dans ce hebdomadaire qui s'appelait Le Sauvage. C'était un hebdomadaire ?
C'était un mensuel. Voilà. Il y avait, au début des années 70, il y avait deux journaux, disons, qui se réclamaient de cette mouvance naissante de l'écologie. C'était effectivement Le Sauvage et puis La Gueule Ouverte, à laquelle il a un petit peu donné des contributions également. Mais il a été effectivement très tôt, dès la naissance du mouvement écologiste. Donc ensuite, André Gorce, Michel Bosquet, a beaucoup œuvré pour développer la pensée écologiste, l'écologie politique en France.
Alors, si vous voulez, j'ai été un des premiers à répercuter les thèmes écologiques dans la grande presse. Mais je n'ai pas été celui qui a inventé le mouvement et l'orientation écologiste. En France, les premiers sont été les gens qui ont fait la marche sur Fessenheim en 1969 ou 70. Mais bref, il y avait une prise de conscience mondiale à partir de 72 du fait que non seulement la croissance ne peut pas continuer indéfiniment, c'est-à-dire la croissance asymptotique, vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement. Dans ce qu'il y a d'écologiste scientifique, personne ne vous dit plus que l'on peut indéfiniment étendre les possibilités d'exploitation de ressources qui sont limitées. Ce qui s'impose à nous, c'est une régression globale de la consommation matérielle.
Il avait comme définition, disons, de l'écologie, d'abord le souci du milieu de vie dans lequel les gens évoluent et qui est le déterminant de la qualité de la vie et de la qualité de la civilisation. Mais pour lui, je crois que avant tout, le mouvement écologiste était un mouvement de protestation, en fait, contre, je dirais, la confiscation de l'espace public par les méga-industries. Voilà, mais lui, c'était lutter contre la domination, lutter contre la destruction du bien commun par des puissances privées, finalement, auxquelles il essayait de faire prendre conscience et donner corps à ce mouvement, puisque dans son esprit, puisqu'il était arrivé à l'écologie par la critique de la consommation, le consommateur individualisé est fondamentalement le contraire du citoyen qui se sent responsable du bien commun.
Le projet de société écologique est un projet qui cherche à subordonner, à soumettre la vie, surtout la vie économique, et le développement économique à des critères qui ne sont pas économiques. C'est un projet culturel. Bien sûr qu'un projet culturel a toujours et nécessairement une dimension éthique et affirme l'autonomie du culturel et de l'éthique par rapport à l'économique. Alors que tous les autres, les libéraux, font l'inverse. Il subordonne le culturel et l'éthique à des critères de rentabilité et à des calculs coûts-avantages. L'écologie, c'est un changement radical et fondamental des rapports de l'homme, bien sûr, à la nature, mais aussi à lui-même et à ce que est ou doit être la société, certes. Et donc, c'est une nouvelle culture. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'on appelle culture ? Depuis toujours, on appelle culture le réservoir d'interprétation, de normes, de traditions, de valeurs, à partir desquelles se forme et se structure votre sensibilité, vos goûts, votre sens du beau, du vrai et du juste. La culture est ce qui vous fournit les critères en vertu desquels vous pouvez décider ce qui vaut et ce qui ne vaut pas, ce qui mérite d'être fait, ce qui ne mérite pas d'être fait, ce qui mérite d'être l'objet d'une entreprise économique nécessairement rentable et ce qui ne doit pas faire partie d'une entreprise économique nécessairement rentable. À partir du moment où les critères d'évaluation de ce que doit être et doivent être les buts d'une activité économique et sociale, ces critères d'évaluation sont eux-mêmes soumis à l'évaluation économique sous forme de la question « la culture, est-ce que c'est rentable ?» Ben, vous renoncez à tout critère d'évaluation. Vous n'avez plus comme critère d'évaluation suprême, unique et suprême, que la question de savoir « est-ce que c'est rentable, est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce que ça permet l'expansion et la santé de l'entreprise ou est-ce que ça ne la permet pas ?» Donc, vous n'avez aucune orientation. Le seul but dans la vie et le seul critère de réussite, c'est gagner de l'argent, croître. Et nous en sommes là, c'est-à-dire que nous avons perdu tout repère et tout sens du haut et du bas, du bien et du mal, et que finalement la question qui se pose à nous, c'est en vertu de quoi est-ce que, vu que l'évaluation économique est le critère suprême, en vertu de quoi est-ce que nous n'abolissons pas le repos dominical puisque ça permet de rentabiliser beaucoup mieux les installations, ce qui est d'ailleurs en train de se faire. Et si vous allez par là, où est-ce que vous voulez vous arrêter ? Ne serait-il pas plus rentable de laisser mourir les gens à partir d'un certain âge, puisqu'ils ne sont plus productifs ?
André Gorz, en 1991, c'était il y a 20 ans. Il faut rappeler que André Gorz est mort en 2007. Là, on va écouter un autre document, toujours provenant de France Culture. C'était en 1979 et il débattait avec Paul Thibault, directeur de la revue Esprit, sur les outils. C'est-à-dire ce moment où les outils, qui doivent être évidemment à notre service, nous dominent. Et c'est le marteau sans maître. C'est la métaphore du marteau sans maître, le moment où le marteau échappe de la main de l'homme et fait ce qu'il veut. André Gorz, 1979.
Passé un certain seuil d'industrialisation de nos moyens de vie, notre autonomie, notre sphère d'autonomie individuelle, au lieu de s'agrandir, est détruite. Je peux formuler ça autrement. Je dirais que, passé un certain point, les outils par lesquels l'homme prétend dominer la nature se retournent contre lui comme le dominant lui-même. C'est-à-dire qu'il est dominé par les outils de sa domination sur la nature. C'est assez évident si l'on prend les grandes concentrations industrielles ou si l'on prend, par exemple, les centrales nucléaires, dont, comme d'ailleurs dans l'industrie du siècle dernier, le fonctionnement ne peut être assuré que par une militarisation du travail comportant une hiérarchie et une discipline extrêmement rigide. Donc nous avons bien là un effet de domination de l'outil qui se retourne sur l'homme et qui, bien sûr, est un outil entre les mains de quelqu'un ou de quelque chose, d'un sujet toujours absent, ce sujet étant le processus d'accumulation que moi j'appelle capitaliste. Il n'y a pas de nécessité technique a priori de recourir aux grands outils plutôt qu'à des outils plus petits, nous le savons aujourd'hui. Les effets d'encombrement, de destruction de l'environnement, de pollution d'un certain nombre de grands outils industriels provoquent des effets de contre-productivité, c'est-à-dire accroissent nos besoins plus vite que nous ne pouvons les satisfaire. Nous devons reproduire l'air, l'eau, etc. Nous n'avons plus de soleil, le ciel n'est plus transparent et nous devons racheter finalement au compte-gouttes ce dont la surindustrialisation nous a privés par destruction. Donc je ne dirais pas qu'il s'agit d'une option morale a priori dans ce qui est aujourd'hui la protestation, le courant de révolte contre la logique de développement dans laquelle nous nous trouvons. Il s'agit de choses qui sont inscrites dans notre environnement matériel même et qui suscitent cette révolte. C'est-à-dire qu'il y a une critique de l'outil à faire, mais cette critique nécessairement débouche sur la critique de notre mode de développement et notre mode d'industrialisation qui ne sont pas en eux-mêmes techniquement nécessaires. Et nous voyons aujourd'hui techniquement, grâce à la microélectronique, s'ouvrir la possibilité d'une réduction de la taille des outils, de la maîtrise de l'outil par les gens, d'un accroissement de la production de valeur d'usage avec diminution de la durée du travail, toutes choses qui sont la condition d'une société détendue, où les rapports marchands ne dominent pas, où l'épanouissement des individus peut être le but de toute activité. Bref, toutes choses qui sont la définition même de ce que l'on appelle le communisme, historiquement tel qu'il a été défini, et en même temps, nous avons le rejet précisément de cette référence au communisme parce que c'est un mot qui est démonétisé à cause de l'usage qu'on en a fait et une idéologie qui nous présente la libération de notre temps grâce à l'automatisation, l'extension possible de notre sphère d'autonomie grâce à la miniaturisation des outils. On nous présente tout cela comme des dangers pour l'emploi au lieu de dire que notre travail est devenu superflu et que nous devenons libres. On nous dit que le travail devient rare et que nous sommes menacés par le chômage. Donc nous nous trouvons au seuil d'un bouleversement possible de la logique de production que tout le monde ressent fortement, en même temps que d'une sorte de censure sur la possibilité, la réalité de la possibilité de ce bouleversement. À mon avis, le seul après-capitalisme qui soit imaginable, c'est ce que, à l'époque de Marx, on appelait le communisme, qui n'a pas grand-chose à voir, effectivement, ni avec ce que représentent les partis communistes, ni avec ce que représentent les régimes qui s'en réclament. Et ce communisme, tel qu'on l'entendait au siècle dernier, est une civilisation où le temps libre l'emporte sur le temps de travail, où la production sociale est subordonnée aux besoins et aux désirs des individus, et particulièrement d'individus riches entièrement développés, individualité riche entièrement développée, ce qui n'a jamais été le cas, où la coopération volontaire et l'association prennent la place des contraintes et des nécessités extérieures, et où la production est dégagée de la logique de l'accumulation. Rien de tout cela nous est proposé. Et en dehors de cela, précisément, il n'y a que continuation de l'accumulation, sous d'autres formes au besoin par destruction de ce qui a été accumulé précédemment. Et en particulier le socialisme, même le socialisme tel que l'entendent les socialistes classiques en France, est une continuation du capitalisme sous d'autres formes, c'est-à-dire un autre avatar de l'accumulation.
André Gorch, en 1979, en écoutant, on se dit, mais c'est vrai quand même, toutes ces avancées technologiques formidables auraient dû nous libérer. On peut se dire que tous ceux qui travaillent à l'élaboration de ces technologies, qui travaillent à tous les niveaux, que ce soit l'ingénieur jusqu'à celui qui emboîte les fils dans les prises, tous se disent bah, « c'est formidable, ça nous libère tout ça ». Et on a l'impression que c'est le sens de notre modernité, du progrès, etc. Or, en écoutant Gorch, on se dit « mais c'est vrai, c'est le contraire qui s'est produit, ça a entraîné une régression, puisque en réduisant la quantité de travail, on a créé du chômage, et donc c'est l'aliénation et les misères des temps actuels.
Oui, je crois que vous avez raison dans cet extrait-là qui est tout à fait intéressant de 79. On reconnaît bien Gorch, le théoricien de l'aliénation, dans une filiation tout à fait marxiste et qu'il assume parfaitement et qui est de ce point de vue-là tout à fait intéressant. Marx était de tous les philosophes hégéliens celui qui disait que la philosophie, ça servait d'abord à réaliser le socialisme. Et d'une certaine manière, on retrouve bien Gorch s'inscrire dans cette logique-là. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cet extrait où il parle du communisme comme utopie, on voit bien à quel point André Gorch, si vous voulez parler de l'utopie, c'est toujours un petit peu difficile parce que l'utopie est à la fois ce qui fait changer la réalité et ce qui est incapable de la changer. Donc c'est toujours une espèce de ligne de crête. Il y a une mauvaise utopie, une bonne utopie. La mauvaise utopie, c'est celle qui vise à la perfection, une société sans drame, totalement harmonieuse. Et donc là, c'est le meilleur des mondes, si on peut dire. Et puis vous avez la bonne utopie, si je puis dire, et c'est celle qui transparaît, je trouve, dans les propos d'André Gorch à l'instant, c'est de nous dire ce qui n'est pas possible dans l'immédiat, mais qui pourrait devenir possible. Et là, on est plus dans la logique, non pas du meilleur des mondes, mais d'un monde meilleur. Et il est plutôt dans cette logique-là de l'utopie quand il parle effectivement de la possibilité que nous offre aujourd'hui la technique pour nous libérer du travail, parce que Gorch considérait que le temps libéré est une richesse, qui a une valeur existentielle. Et on voit bien qu'aujourd'hui, malheureusement, on est incapable de rentrer, dans une réflexion de cet ordre-là.
André Gorch, 1979.
On a juste toujours imaginé la révolution comme un bouleversement instantané, où une société est détruite et une autre mise à sa place. Nous savons que c'est jamais comme ça que ça se passe. S'il y a un processus révolutionnaire brusque, la société mise en place portera en elle beaucoup des perversions de celle qu'elle a remplacée. Si la destruction des pouvoirs de domination ne se font pas dans la société qui est destinée à mourir, celle qui la remplacera, après destruction violente de cette société-ci, ne voudra pas mieux. On a dit dans le passé que la classe ouvrière, et Marx le croyait, s'approprierait le pouvoir bien avant que naisse le pouvoir d'État, et que le pouvoir d'État de la bourgeoisie serait détruit dans les faits avant de l'être politiquement. Je crois qu'aujourd'hui, si je n'ai plus employé le terme de classe ouvrière, c'est que celle-ci n'a pas la même constitution qu'elle avait à l'époque de l'industrie taylorienne. Nous ne savons plus où commence et où s'arrête la couche des producteurs. Mais nous savons où commence et où s'arrête l'effet de domination. Nous savons quelle est la population qui est assujettie à une domination par le pouvoir central et le pouvoir technocratique, mais nous ne savons plus au juste quelle est la position des techniciens, des informaticiens, des salariés, des PTT, des banques, etc., etc., dans le processus de production. C'est pourquoi Touraine, par exemple, ne parle plus que de population. Il désigne par population ce que d'autres appellent les masses, ou qu'en Italie on appelle le prolétariat, au sens le plus extensif. C'est-à-dire tous ceux qui ne font pas partie de l'appareil de domination, qu'il soit étatique ou institutionnel. Et nous voyons bien aujourd'hui que la radicalisation la plus manifeste et la plus agissante émane souvent, non plus d'une avant-garde de la classe ouvrière, mais de ceux qu'on veut nous présenter comme des classes moyennes et qui sont en réalité des travailleurs prolétarisés dont l'appartenance de classe n'est pas claire. Et moi, je trouve ce fait positif que l'appartenance de classe ne soit pas claire, parce que je ne vois pas comment une société sans classe naîtrait s'il n'y a pas dissolution des classes avant même sa naissance.
Voilà, André Gorce, en 1979, j'écoute cet extrait, Christophe Fourel, et je pense à des scènes que j'ai vues tout récemment à Madrid, avec les indignés dans leur débat, et on a assisté à un débat qui était réforme ou révolution. Alors, des gens qui disaient « Ah mais non, la révolution c'est trop radical, c'est violent, il faut aller vers la réforme, et puis petit à petit, et puis par la base, et l'autoritarisme, enfin toutes ces questions dont on débat depuis déjà fort longtemps, étaient à nouveau débattues il y a quelques jours à Madrid. Et là, ce que vous me dites, c'est que ce dont parle Gorce là, c'est en référence à un de ses ouvrages qui s'appelle « Réforme et révolution », et qui est de 1969, donc c'était des débats 68 ans.
Oui, c'est assez intéressant parce que effectivement, on sent bien que André Gorce dans cet extrait fait référence à effectivement des réflexions qu'il a déjà écrites dans ce livre Réforme et Révolution. Et puis en même temps, il est sur le point à ce moment-là, en 1980. Il fera paraître Adieu au prolétariat, qui est un ouvrage qui fera beaucoup de débats. Donc c'est un an, juste un an avant la parution de Adieu au prolétariat, où André Gorce rentre un petit peu en porte-à-faux avec la gauche de l'époque et le syndicalisme en particulier, parce que dans ce livre, il bat en brèche un petit peu la religion du prolétariat qui était portée par certains mouvements à gauche à l'époque. Et puis surtout, il avait dans ce livre mis en évidence la naissance de ce que lui appelait encore peut-être un peu maladroitement la non-classe des non-travailleurs, qu'on a déjà évoqué, mais d'une certaine manière qui font écho avec Los Indignados que vous avez rencontré à Madrid, parce que ce sont la non-classe des non-travailleurs, ce sont tous ces gens qui ne peuvent pas se retrouver dans le travail qu'on leur donne à faire et qui ne peuvent pas se reconnaître à travers le travail qu'on leur propose de faire ou de ne pas avoir d'ailleurs, parce que d'une certaine manière, c'est une frustration absolument colossal que finalement de voir ces jeunes qui pour la grande majorité d'entre eux sont très diplômés, ont acquis une éducation et le système éducatif leur a permis d'acquérir des connaissances et comment dirais-je des diplômes, et se retrouver dans une situation où finalement ils sont complètement en porte-à-faux par rapport à ce que aujourd'hui le marché du travail peut leur offrir. Et je crois que le mouvement est intéressant à regarder de près, et vous le faites, parce que elle interroge notre société sur sa capacité aujourd'hui à se poser des questions sur elle-même. On parlait tout à l'heure du temps libéré et que faire du temps libéré. On est pris dans un tel étau aujourd'hui qu'on n'est même pas capable. Ouais. C'est quand même ahurissant de penser que on a les possibilités d'avoir du temps libre beaucoup plus, et malheureusement ça devient un problème. Donc je crois que des mouvements comme celui que vous avez vu à Madrid posent ces questions sur la société est-elle capable de se poser des questions sur le sens de son développement, et puis de montrer à quel point aujourd'hui la logique économique, la valorisation économique n'a jamais était aussi destructrice de sens.
Partout en Espagne, sur les places, on voit ces occupations et des milliers de textes auront été écrits, des milliers de slogans, de pancartes, de tout petits textes ou de textes plus importants. Mais il y en a un avec lequel je veux finir là, cet entretien sur André Gorce, et en écoutant André Gorce, c'est celui-ci. C'était sur la Puerta del Sol, un panneau écrit sur un morceau de carton qui disait « Nous ne sommes pas le problème, nous sommes la solution ».
Je crois personnellement que dans tout ce qui se passe au niveau technologique, économique, s'annonce la montée d'une crise qui fait que ou bien tout sombrera dans la barbarie complète, ou tout changera totalement, dans un sens positif, et qu'il n'y a pas beaucoup de milieu entre les deux. Ou bien nous deviendrons un monde qui ressemble à ce qu'est actuellement l'Afrique, avec des bandes armées qui s'entretuent, un monde à la Mad Max, des bandes armées qui s'entretuent pour pas grand-chose, pour se partager des richesses que personne ne produit plus, pour piller, etc., etc. Ça, c'est une chose qui, même autour de nous, s'indique, et bien sûr, s'indique beaucoup plus fortement dans le Sud. Donc nous pouvons dériver vers ça. Mais aussi, nous pouvons dériver vers ce qui se construit dans les marges. Par exemple, au Brésil, qui sont un nouveau type de coopérative de mise en commun de tout ce qui est produit et de refus de monétariser les productions, de les commercialiser. Le néolibéralisme en tant qu'idéologie dominante a du plomb dans l'aile, et même l'économie marchande. L'idée de gratuité fait son chemin, même de façon parfois inattendue, chez des gens inattendus. Vous avez Patrick Vivret qui développe un discours que je considère anti-économique, c'est-à-dire qui demande l'introduction d'une économie complètement différente de celle qui règne pour tenir compte de ce qui n'est pas comptabilisable, calculable, ni expressible en prix et en argent, et qui est la richesse première et la richesse fondamentale. Tout ce qui est humain n'est pas traductible en argent, ni tout ce qui est relève des cycles naturels. Et de mon point de vue, ce passage pourra avoir lieu quand ce système économique s'effondrera. Et je crois fermement à son effondrement. Parce que tous les indices de sa venue sont là. Vers quoi nous allons? C'est-à-dire vers une production où il n'y a presque plus de travail. Et quand il n'y a plus de travail, il n'y a plus de salaire. Donc il faut trouver autre chose. Je crois qu'il y a d'espoir, mais il y a beaucoup de risques. Parce que si l'effondrement se fait trop tôt, sans qu'un certain nombre d'évidences et d'expérimentations à grande échelle aient eu lieu, on va simplement vers la barbarie.
Voilà, André Gorz en 2006. On va se quitter sur ce dernier extrait, Christophe Fourel. Gorz, dans ce passage, vient d'évoquer Patrick Vivret. C'est un des auteurs qui figure dans le bouquin que vous avez dirigé, André Gorz, un penseur pour le 21e siècle. C'est à la découverte, ça a déjà 2-3 ans, c'est ça?
C'est paru en 2009.
C'est paru en 2009, il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous conseillez pour ceux qui veulent rentrer dans la pensée d'André Gorz?
Oh, je pense que spontanément, pour le public non averti, j'aurais tendance à lui conseiller de lire Lettre AD. J'aurais également ensuite tendance à conseiller l'ouvrage posthume qui est paru en 2008, qui est un recueil et qui s'appelle Ecologica, qui est un recueil de textes d'André Gorz, et qui montre à quel point sa pensée est tout à fait actuelle. L'extrait qu'on vient d'entendre, je trouve, est de ce point de vue-là extrêmement éloquent. On voit bien à quel point, pour André Gorz, la crise écologique, la crise financière, la crise sociale et du travail ne sont pas dissociables. On ne peut pas les hiérarchiser, et que c'est toutes ces crises auxquelles nous avons aujourd'hui à faire face. Et d'une certaine manière, l'actualité, on a déjà évoqué Los Indignados tout à l'heure à propos de la crise sociale et la crise du travail, mais ce qui se passe en Grèce, qui sont les répercussions de la crise financière, où on se trouve avec un État qui est au bord de la faillite, d'une certaine manière, et de ce point de vue-là, éloquent. Et enfin, l'actualité aussi est porteuse, parce que l'Allemagne vient de faire le choix de sortir du nucléaire, qui est un choix qui interroge beaucoup. Et je crois que tout ça rentre en résonance avec, effectivement, la pensée d'André Gorz, qui est une pensée extrêmement riche.
Voilà, merci à Christophe Fourel. Demain, donc, manif, 14h30. 3 mois après la catastrophe de Fukushima et ensuite des interventions de place de l'Hôtel de Ville à Paris. Merci à Catherine Louis. Et vous trouverez toutes les informations et une bibliographie non exhaustive d'André Gor sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et celle d'hier. Également sur là-bas.org, là-bas.org, la technique aujourd'hui de Farguéry, des Jean-Philippe, Jeanne, Coy, Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Le Bot. Et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Ah oui, bah c'est vrai que j'ai peur en avion et en bateau. Mais j'ai toujours aimé voyager. Alors avec la famille, on a enfin pu aller en Corse en se faisant construire un tunnel sous la Méditerranée. Bien discret, hein, parce qu'il ne s'agit pas de déranger les Corses. Prochaine étape, New York. Je pourrais faire un pont pour y aller.
Euromillion, et si votre vie devenait infiniment plus riche?
Attention, mardi dernier, le jackpot n'a pas été gagné. Ce vendredi, il atteindra près de 68 millions d'euros. Voir règlement sur fdj.fr.
FDJ, jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Bonjour, ici Maud Fontenoy. La mer, vous le savez, c'est ma passion. J'aimerais vous la faire partager. Je vous invite du 8 au 13 juin à participer aux Journées de la mer. Baptême de plongée, projection de films, visite d'aquarium, découverte de sites marins, plein d'activités à retrouver sur www.lesjournéesdelamer.fr.
Ceci est un message du ministère du Développement Durable.
Ceci est un message de Bleu Ciel d'EDF.
Quand on a déménagé, on a changé d'adresse.
De numéro de téléphone.
De voisin, les enfants ont changé d'école.
On a changé nos habitudes.
On a aussi changé nos contrats d'énergie.
En effet, grâce à notre conseiller EDF Bleu Ciel, on a bénéficié d'un conseil tarifaire pour choisir nos contrats d'énergie adaptés à notre nouveau logement et à nos habitudes de consommation pour l'électricité et le gaz naturel. Ça nous aide à optimiser notre budget énergie, tout simplement.
Appelez le 09 69 32 15 15, appel non surtaxé. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
On se retrouve lundi à 15h pour la base, j'y suis. Bonne fin de semaine à tous, je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
François Fillon ne pense pas à 2012. En déplacement en Loire-Atlantique, le Premier ministre a réagi à l'hypothèse de sa candidature à Paris aux élections législatives. « C'est totalement étranger à mes préoccupations », a-t-il affirmé. Dans l'actualité du jour, en revanche, les craintes autour de deux sites du constructeur automobile PSA Peugeot-Citroën. L'entreprise est redevable vis-à-vis de la nation qui l'a aidé, a prévenu François Fillon. Il s'est dit toutefois rassuré par les propos du patron de PSA, Philippe Varin, pour qui il a fait fermeture des sites d'Aulnay-sous-Bois et de Sévelnord n'est pas d'actualité. Enfin, le Premier ministre a salué une bonne nouvelle pour les maraîchers. L'identification de la source de la contamination à la bactérie tueuse en Europe, c'était des graines germées cultivées dans le nord de l'Allemagne. François Fillon a encouragé les Français à savourer le concombre mis hors de cause. La Cour d'assises spéciale de Paris, qui rejuge en appel Yvan Colonna pour l'assassinat du préfet Erignac, motivera son verdict. Verdict qui est attendu en fin de semaine prochaine. Le président de la Cour d'assises spéciale a annoncé cette décision qui répond à une demande de la défense. Cette motivation des verdicts de Cour d'assises est réclamée de longue date par les avocats. Elle est notamment critiquée par la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la Belgique pour ce motif. Après les accusations de Luc Ferry, l'ancien patron des renseignements généraux Yves Bertrand est entendu en ce moment comme témoin par la police. Une enquête a été ouverte suite aux accusations d'actes de pédophilie lancé par le philosophe contre un ex-ministre qu'il n'a pas nommé. Et Yves Bertrand a dit à l'agence France-Presse avant cette audition qu'il ne donnerait pas de nom à la police. Un nouveau soutien pour la candidature de Christine Lagarde au FMI, celui de l'Afrique. Le ministre congolais des Finances, qui s'exprimait au nom de ses homologues, l'a assuré du soutien de plusieurs responsables africains. La ministre de l'Économie est à Lisbonne pour l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Dans un discours, elle avait affirmé que le temps de l'Afrique était venu en tant que nouvel émergent. Christine Lagarde boucle aujourd'hui sa campagne pour succéder à Dominique Strauss-Kahn. La clôture des candidatures, c'est ce soir. Et sur le front judiciaire, elle sera le 8 juillet prochain si la Cour de justice de la République ouvre une enquête pour abus d'autorité à propos de son rôle dans l'arbitrage rendu en faveur de Bernard Tapie dans l'affaire Adidas. Une première défection dans la coalition qui intervient militairement en Libye. La Norvège veut réduire son engagement avant d'y mettre fin à compter du 1er août. 6 chasseurs F-16 norvégiens participent aux opérations. Malgré la répression, les Syriens défilent aujourd'hui dans plusieurs villes du pays, notamment dans le nord de la Syrie et à Dera dans le sud, où les forces de l'ordre ont ouvert le feu. Au moins 5 manifestants ont été tués. Au Yémen, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de la capitale Sanaa. Ils réclament toujours le départ du président Ali Abdallah Saleh.
Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
15 000 morts, c'est le terrible bilan de la guerre de la drogue au Mexique pour la seule année 2010. Une guerre entre les narcotrafiquants et le pouvoir et entre les gangs entre eux. Mais quelle est la responsabilité du grand voisin nord-américain ?
Tous les samedis à 13h20, rendez-vous avec X.
France Inter. La différence.
16h04 sur France Inter, je vous laisse avec Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Est-ce que ça existe un compositeur impertinent? Bah oui, ou même insolent. Emmanuel Chabrier, par exemple, notre cher Auvergnat, né à Amber en 1841, il aimait beaucoup rire, on l'appelait l'ange de la cocasserie. Et puis, il avait quelques ennemis quand même, bien sûr, parce qu'il se disait lui-même autodidacte. Il a écrit « Je me suis fabriqué à peu près tout seul ». Et alors, brusquement, certains se croyaient autorisés à lui faire des réflexions comme Benjamin Godard, assez remarquable compositeur qui lui aurait lancé « Quel dommage, mon cher Chabrier, que vous soyez mis si tard à la musique ». Et aussitôt, notre bon Emmanuel a répondu « Quel dommage, mon cher Godard, que vous y soyez mis si tôt ». Eh ben oui, mais il avait le droit de se défendre aussi. Alors on le décrit comme un personnage aux doigts trop gros, les yeux globuleux, une certaine gaucherie dans l'attitude, et pourtant il savait atteindre un excès de finesse et un maximum d'expression que bien peu de grands pianistes ont dépassé, je cite un certain Arthur Pougin. Voici la danse villageoise tirée des 10 pièces pittoresques d'Emmanuel Chabrier.